Voilà, c'est un privilège pour moi de pouvoir être ici ce matin à Lavigny. Quand j'ai dit à certains de mon église j'avais la chance de pouvoir venir à Lavigny, finalement j'ai appris que c'était un retour aux sources, parce que l'église de Cossonay vient en partie de cette église de Lavigny. Il y a déjà bien quelques années, milieu des années 80, ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps l'ont peut-être vécu. Vous avez libéré une poignée de chrétiens pour implanter une église à Cossonay. Et cette église, maintenant, accueille facilement 120 et 150 personnes chaque dimanche. Donc c'est un privilège de voir aussi que le royaume de Dieu grandit, et puis qu'on peut partir d'une poignée, libérer une poignée de personnes pour aller implanter une église ailleurs. Et on voit que quand c'est dans l'œuvre de Dieu, de belles choses se passent. Et puis, je vous témoigne toute ma reconnaissance pour la décision, pour ce que vous avez fait dans les années 1980. Et c'est beau de voir ce que Dieu fait dans notre région. Je vous adresse aussi les chaleureuses salutations de l'église de Cossonay, que vous connaissez certains membres certainement. Et je vous salue au nom de l'église. Alors, on m'a dit que vous suivez une série sur les relations, avec des thèmes bien précis. Finalement, je l'ai découvert ce matin, des relations hommes-femmes, relations employés-employeurs. Et si je dois définir un thème bien précis ce matin, ce serait plutôt des relations, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y a un conflit, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu? Et puis vous manifestez à Dieu toute votre frustration dans cette relation. Et puis Dieu vous dit, non mais j'aimerais m'occuper aussi de cette personne. Et puis là, souvent notre réaction à chaud, c'est comment ça? Pourquoi d'abord cette personne? Et puis c'est ce qu'on va voir ce matin en étudiant cette relation entre Jésus et Jaïrus. Et pour introduire ce message, j'aimerais vous dire que j'ai réalisé que Jésus n'était pas forcément un bon médecin. Non, c'est vrai. On pourrait presque lui reprocher une faute professionnelle grave. Alors vous en doutez peut-être, mais je vais essayer de vous convaincre. Imaginez que vous êtes à l'hôpital, aux urgences, vous attendez, votre situation est grave, vous savez que si vous n'êtes pas pris en charge immédiatement, vous allez mourir. Donc il y a besoin de voir un médecin de toute urgence. Et puis, tout d'un coup, dans la salle, là, entre le médecin, et puis vous dites, ah ben ça y est, il va s'occuper de moi. Et finalement, le médecin avance vers la machine à café, prend un café, allez, il en sert un deuxième, puis avec le deuxième café, il va le donner à un patient qui semble n'avoir qu'une coupure au doigt. On ne sait même pas pourquoi il est venu à l'hôpital pour ça. Mais voilà, le médecin se dirige vers ce patient avec ce deuxième café, puis ensemble, ils commencent à discuter. Je vous rappelle, vous êtes dans un état grave entre la vie et la mort. Malgré l'urgence de la situation, vous passez au second plan. Qui pense que le médecin que je viens de décrire est digne de confiance? Non, c'est bon, vous me rassurez. On est d'accord que c'est une faute grave. Je commence à vous rallier à ma cause, quand je vous disais que Jésus n'était pas forcément un bon médecin. Mais quel est le lien entre ce médecin et Jésus? Et je vous propose de le découvrir dans l'histoire que nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 5, les versets 21 à 43, qui nous dit « Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus, en bon médecin, s'en va avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » Bonne idée, Jésus est pressé. À l'instant même, son hémorragie s'arrête. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disent « Tu vois bien la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore, Jésus, situation urgente, Jésus parlait encore, quand des gens arrivèrent chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ? Pourquoi Jésus ne s'est pas dépêché ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, mais crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient, poussaient de grands cris. Il entra et dit « Mais pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? » « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache, et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le passage que nous venons de lire s'ouvre sur une situation d'urgence. Ça dérange le petit bruit, ça va ? Faut que je l'écarte un peu. Voilà. Le passage que nous venons de lire s'ouvre sur une situation d'urgence. Jaïrus arrive vers Jésus avec une demande importante. Sa fille est mourante et il demande à Jésus de la guérir. Ok, Jésus semble prendre la situation au sérieux et il se met en marche avec lui. Tout semble s'enchaîner normalement. Mais voilà qu'en route, une guérison se produit. Une femme souffrant de perte de sang n'ose pas interpeller Jésus. Alors, le plus discrètement possible, elle essaye d'aller toucher son vêtement. Bonne idée. Jésus est pressé, il ne faut pas lui faire perdre de temps. La vie d'un enfant est en jeu. Cette femme touche le vêtement de Jésus, aussitôt elle est guérie. Et la suite du récit me surprend. Devant l'urgence de la situation, une fillette de 12 ans est entre la vie et la mort, plutôt que continuer sa course, Jésus s'arrête. Il prend le temps de discuter avec cette femme. Comme s'il allait boire un café, comme ce médecin que nous avons parlé tout à l'heure. La demande de Jaïrus est soudainement reléguée au second plan, laissant son enfant entre la vie et la mort. Jésus ne voit-il pas l'urgence ? La femme a été guérie, elle a obtenu ce qu'elle voulait. C'est donc pas nécessaire de discuter avec elle. C'était peut-être là la pensée qui habitait Jaïrus. Que pensait-il, lui, de ce récit, de voir Jésus qui s'arrête ? Qu'auriez-vous ressenti à la place de Jaïrus si vous aviez demandé Jésus, puis vous voyez que Jésus ne répond pas tout de suite à votre demande, qui semble importante ? Mais Jésus s'arrête, il discute, comme ce médecin qui va boire des cafés plutôt que vous soigner. Comprenez maintenant pourquoi je vous disais que Jésus n'était pas forcément un bon médecin. On est d'accord. Plus ou moins. Pas tout à fait, parce que Jésus n'était pas médecin. Son rôle premier n'était pas de guérir les gens. Son but dépassait celui de la guérison. La femme était guérie au contact de Jésus, mais il fallait qu'il s'arrête pour elle. Il fallait qu'il s'arrête pour elle pour que sa situation soit mise en lumière. Et puis quand Jésus s'arrête, on voit que la femme lui dit toute la vérité. Et probablement que là, il y a eu des guérisons aussi spirituelles. Il fallait que Jésus s'arrête. Finalement, cette mise en lumière a changé sa vie, radicalement. Et la parole de Jésus qui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Jésus a un but bien plus grand que la guérison. Il est venu offrir le salut à cette femme qui n'avait rien à faire là. Elle n'avait rien à faire là, non ? Et Jaïrus le savait bien. Cette femme, avec ses hémorragies, était considérée comme impure. Elle n'avait pas le droit de toucher un rabbin. En s'approchant de Jésus, cette femme désobéit volontairement à la loi de Dieu. Rappelons-nous, le texte nous dit que Jaïrus est le chef de la synagogue. Donc il n'y avait pas besoin de lui rappeler des lois, lui. Il pouvait légitimement penser que Jésus accordait plus d'importance à cette femme en désobéissance ouverte avec la loi qu'à sa fille à lui. Comment une pécheresse comme elle peut être plus importante que ma fille à moi, chef de la synagogue ? C'était impensable que Jésus renverse la hiérarchie sociale. Pendant cette discussion, l'impensable se produit. La fille de Jaïrus décède. Ce n'est plus nécessaire de déranger le maître. Sur cette nouvelle, Jésus intervient. Il pourrait consoler Jaïrus en lui disant « T'inquiète pas, c'est bon, je vais la ressusciter, marchons tranquillement. » Mais Jésus lui dit « N'aie pas peur, crois seulement. » Cette parole met en valeur la foi de Jaïrus et a pour but de l'emmener un bout plus loin dans sa vie de foi. Crois seulement. La foi qu'il a manifestée au début de son récit doit être augmentée. C'est le but de la mission de Jésus pour lui. Puis effectivement, arrivé chez Jaïrus, le miracle se produit. Jésus relève sa fille d'entre les morts. La foi de Jaïrus s'en trouve fortifiée, sa patience a finalement payé. Il était récompensé, au-delà de sa demande. Il demandait une guérison et voilà qu'une résurrection se produit. Quelle expérience de foi profonde. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des résurrections. Ça doit être impressionnant, ça doit être une expérience de foi importante. Alors quand on prend le récit dans sa globalité, on comprend bien la pédagogie de Jésus, qui n'est pas de s'arrêter au premier besoin, mais d'emmener les gens plus loin dans leur chemin de foi. Mais quand nous sommes au cœur de l'action, comme Jaïrus, on voit qu'il y a des enjeux relationnels importants. Si on prend cette relation sous l'angle de Jaïrus, Jaïrus semblait tout d'un coup avoir une relation privilégiée avec Jésus. « Voilà, j'ai besoin de toi, ma fille est malade, viens guérir. » Jésus se met en marche, ils avancent ensemble. Et tout d'un coup, il y a une personne qui vient, qui est de classe sociale inférieure, et qui est en désobéissance avec la loi, elle vient puis elle attire l'attention sur elle. Qu'auraient pu être les sentiments de Jaïrus à ce moment-là ? Il aurait été facile pour lui, en tant que chef de la synagogue, de juger cette femme. Pourquoi elle d'abord et pas moi ? Elle ne peut pas faire comme à la poste, prendre son ticket, et puis elle passera après moi ? Ma demande à moi, elle est quand même plus urgente. En plus, regardez son attitude. Une pécheresse, elle n'a pas le droit de toucher un rabbin. Qu'est-ce qu'elle fait ? Moi, en tant que chef de la synagogue, je fais les choses bien mieux qu'elle. Moi, j'aime Dieu. Moi, toute ma vie est dévouée à Dieu. Je me conforme à sa parole, à ses lois. Alors pourquoi elle d'abord ? Les sentiments de Jaïrus ne nous sont pas donnés dans le texte. Mais Jaïrus aurait pu signifier à Jésus sa colère. Il aurait pu aussi partir, dire de toute façon, si ce Messie s'arrête pour elle, il n'a rien compris. Il n'est pas à la hauteur. Ce mécanisme consiste à passer d'un sentiment de victime à celui de juge de la situation. C'est tellement facile de juger des situations, des gens, des personnes, pour se protéger des défis relationnels. Autant dans le jugement que dans la fuite, il y a un orgueil blessé. Le texte ne nous dit rien sur les sentiments de Jaïrus, mais permettez-moi de vous suggérer qu'il n'est pas tombé dans cet écueil et qu'il savait ce que Jésus faisait. Il est resté à sa place. Il a laissé Jésus conduire la relation. Alors que c'était nécessaire que Jésus s'arrête pour cette femme, il a accepté d'être en retrait. Alors certainement, ce n'était peut-être pas si facile, hein. Il y avait certainement des émotions qui devaient lutter en lui. Mais Jaïrus a trouvé une clé assez précieuse pour nous. Plutôt que de voir ses propres besoins et ses propres satisfactions d'abord, il a cherché à voir ce que Jésus était en train de faire et voulait faire dans la vie de cette femme. Ce qui compte, ce n'est pas ses besoins à lui, mais c'est ce que Jésus désire accomplir. On l'a dit pendant la louange, ce n'est pas ce que Jésus, un Jésus quelconque, veut accomplir, mais qu'est-ce que mon Dieu veut accomplir dans cette relation où cette femme semble prendre les devants. Qu'est-ce que mon Dieu veut faire dans cette relation qui m'est difficile? Et au travers de cette histoire entre Jésus et Jaïrus, Marc nous invite à voir l'autre, la personne, à travers le regard de Jésus. Alors l'autre a certainement tort, bien sûr. Comme cette femme qui a transgressé la loi, on peut lui reprocher des choses. Mais ça demande une dose d'humilité de se dire non, je ne lui reproche pas ce qu'elle fait de faux, mais je me retire et je regarde ce que Jésus veut faire pour elle. Reconnaissons que nous avons parfois la tendance, le réflexe de vouloir nous placer en juge d'une relation. En tout cas, si ça ne vous arrive pas, ça m'arrive à moi. Quand il y a des défis relationnels, etc., j'ai envie de dire que l'autre, il n'a rien compris. C'est dommage qu'il ne pense pas comme moi. Moi, je suis quand même plus digne que lui. C'est souvent des petits mécanismes intérieurs, d'ailleurs. Et ce matin, l'attitude de Jaïrus nous invite à nous décentrer de nous-mêmes, ce qui se passe dans ce récit, à nous décentrer de nous-mêmes, de comprendre nos émotions, mais se dire, mais je dépose ces émotions et j'aimerais discerner ce que Jésus veut faire dans la vie de cette personne. Alors ça nous demande un travail, des fois, de lâcher prise sur ce qui nous coûte, sur nos émotions, surtout si l'autre nous a fait du tort. Peut-être même à pardonner, à éprouver de la compassion. On change de posture. Finalement, ce n'est plus la relation entre mon Dieu et moi, mais c'est la relation entre moi, mon Dieu, et puis l'autre qui dit aussi mon Dieu et son Dieu. C'est un triangle. Et quand on se met en position de juge de la personne, c'est comme si on enlevait Dieu de l'équation de la relation. Lâcher prise, pardonner, éprouver de la compassion, c'est inviter Dieu au cœur de cette relation. S'il y a du tort qui a été causé, ça ne veut pas dire que ça va l'enlever. Mais inviter Dieu au cœur de la relation, ce sont là des clés pour développer des relations saines. Voilà ce que ce texte, ce récit entre Jaïrus et Jésus peut nous dire sur l'importance des relations. Se décentrer de nous-mêmes, et inviter Jésus, regarder ce qu'il fait. Plutôt que se mettre contre l'autre, se mettre à côté de Jésus, et puis ensemble dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de cette personne ? Et plutôt que d'être frontal, on est partenaire avec Jésus pour édifier l'autre dans sa vie de disciple. Ça serait dans un monde idéal, mais c'est ce à quoi nous pouvons tendre. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu relationnel, personnel. Tu n'es pas un Dieu quelconque, mais par ton sacrifice à la croix, nous pouvons dire mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es notre Dieu. Seigneur, que dans nos relations, jamais nous n'oublions que tu es notre Dieu et que tu désires cheminer avec nous, mais avec l'autre aussi, quand c'est plus difficile. Oui, Seigneur, nous te remettons nos relations entre tes mains, en te demandant de faire ton œuvre. En ton nom, Jésus. Amen. Et pour terminer ce message, j'aimerais vous laisser trois questions qu'on peut afficher au tableau. Pour aller plus loin, peut-être vous avez des groupes de maison, vous pouvez reprendre ces questions ou dans le repas de midi. La première question, c'est comment est-ce que ma relation à Christ vient influencer ma manière de voir mes relations ? Deuxième question, quelle relation me met en insécurité et me fait prendre la posture du juge ? Et pourquoi ? Et quels seraient les bénéfices si j'adoptais la posture de celui qui cherche à voir l'œuvre de Dieu dans cette relation ? Quels seraient les bénéfices pour moi, mais aussi pour l'autre ?